Ça y est, t'es prêt ? Merci beaucoup. Je tiens à vous dire que ça fait tout à fait l'effet inverse. Ça rassure pas du tout. Voilà, je vais me présenter courtement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, bonjour, je m'appelle Vincent Prévost, j'ai 38 ans, je suis marié avec Amélie, ma femme depuis 15 ans. Et oui. Nous avons la chance d'avoir la responsabilité de trois magnifiques filles, Éléonore, Clarisse et Salomé. Et on habite dans un charmant village qui s'appelle Saint-Géniès-des-Mourgues. Voilà, moi j'ai grandi dans cette église. Et j'ai grandi aux côtés de personnes fidèles et aimantes. Je ne pourrais pas les nommer aujourd'hui, mais je les remercie de tout mon cœur. Et je remercie le Seigneur de les avoir placés sur ma route comme des balises. Et je suis responsable du groupe d'ados dans cette église aussi depuis plusieurs années. Et j'exerce le métier de kinésithérapeute depuis 15 ans et d'ostéopathe depuis 10 ans. Voilà pour une rapide présentation. Alors sur le papier, tout ça, ça a l'air simple, bien tracé, bien cadré. Mais en fait, pas du tout. Mon itinéraire de vie, il est un peu plus tortueux que ça. À 17 ans, comme beaucoup, j'étais en pleine sortie de ma crise d'ado. En sortie, peut-être pas vraiment, peut-être que j'y étais encore en plein. On peut dire qu'au niveau des études, c'était encéphalogramme plat. Au niveau de Dieu, c'était rébellion. Au niveau des parents, c'était rébellion. En gros, si vous voulez, les mots discipline et obéissance ne faisaient pas partie de mon vocabulaire. Voilà. Mais il se trouve qu'à l'époque, je faisais du handball. Et malheureusement, à la fin d'un match, je me blesse. Entorse grave du genou, rupture des ligaments, passage par la case chirurgie obligatoire. Ce qui est un peu troublant, c'est que c'est une journée, dans ma période un peu difficile, que j'avais choisi de remettre à Dieu. J'avais envie de la vivre avec lui, j'avais prié pour lui laisser plus de place. Alors vous avez compris, plus de place, j'ai été servi. Mais l'histoire a continué, et avec cet accident, j'ai découvert la rééducation, l'univers de la kiné, et c'est un métier que j'exerce aujourd'hui. Alors c'est un métier un peu spécial, le métier de kiné, parce que déjà, il n'y a pas une... Alors déjà, on touche des gens toute la journée, voilà, ça, c'est pas donné à tout le monde, et ensuite, parce qu'ils nous collent à la peau. Si vous voulez, il n'y a pas une soirée, un repas, où il n'y a pas quelqu'un qui vient me dire « Ah, t'es kiné, c'est super. Donc, j'ai mal là, j'ai vu un truc sur Internet. Qu'est-ce que tu penses de ci? Qu'est-ce que tu penses de ça ?» D'ailleurs, hier soir encore, ça n'a pas loupé. Quelquefois, je me dis que j'aurais dû faire ornithologue ou faire des réunions de Tupperware, ça aurait été peut-être un plus. Hein. Mais il n'y a pas de souci pour ces personnes-là, parce que j'aime ce que je fais. Et ça ne me dérange pas du tout. En fait, voilà, j'avais trouvé ma voie professionnelle après cet accident. Et encore fallait-il que j'y accède. Parce que ce n'était pas gagné, les études de kiné, ce n'est pas facile. Et donc il y a un concours à passer. Et quand je me suis inscrit à ce concours, même mes parents, ils étaient un peu sceptiques. Il faut les comprendre. Parce que 58 places pour 2800 candidats, à Montpellier, ça ne fait pas beaucoup de chances de réussite. Même ma future femme à l'époque n'y croyait pas trop. Et je la comprends. Mais vous comprenez bien que si je vous parle de ça aujourd'hui, de ma foi au travers de mon métier, c'est parce qu'il y a une vraie bénédiction, il y a une vraie grâce, et Dieu m'a permis de faire ce boulot. Alors j'exerce dans un cabinet de groupe, en libéral, depuis 2007, et je dois dire qu'en 15 ans, ma pratique, elle a pas mal évolué. En fait, au début, le plus important pour moi, c'était d'être performant. C'était la réussite. Il fallait que je sois très bon. En fait, je cherchais à être un peu à la hauteur de la grâce que Dieu m'avait accordée. Donc après mon diplôme, parce que quand on sort des études, on est nul. On se sent nul et on est nul. Et ainsi, après mon diplôme, j'ai fait 10 ans de formation complémentaire. Ostéo, tout ça, passons. Ma femme s'en souvient bien parce qu'elle a passé pas mal de week-ends seule avec les filles en bas âge. Et ouais, les formations, c'est souvent loin et le week-end. Et donc, j'ai beaucoup cherché cette performance, ce 100%. C'est pas mauvais en soi. Mais c'est mauvais quand ça devient un moteur. Parce que quand la performance est le moteur quotidien, ça va poser deux problèmes. Le premier problème, c'est que quand vous avez un patient qui revient et qui va mieux, vous êtes au top de la satisfaction professionnelle. Là, vous êtes content, vous êtes heureux. Et quand il y a un patient qui revient, et malheureusement, ce n'est pas ça, voire il est encore pire qu'avant, alors là, c'est le coup de massue. C'est-à-dire que là, la satisfaction, là, vous avez le moral dans les chaussettes. Et en fait, ça fait comme un ascenseur. Et quand la performance, c'est le moteur, et ça fait un ascenseur. Et cet ascenseur, il est épuisant. Et deuxièmement, quand parfois vous êtes très bon, vous avez droit à quelques petits superlatifs qui ne font pas du tout plaisir à un chrétien. Ah, mon sauveur. Ah, mais vous faites des miracles. Ah, mais c'est de la magie. C'est même arrivé qu'on m'appelle Jésus. C'est vrai. Là, je suis obligé de dire, non, je ne vais pas vous laisser faire ça. C'est pas possible. Et à un moment donné, Dieu l'a mis le doigt sur ça dans ma vie parce que c'était fatigant. Et je donnerai juste un verset. Dans 1 Corinthiens, la Bible, elle dit, « Car qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu ? Comme si tu ne l'avais pas reçu. » À un moment donné, la quête de performance, c'est aussi de l'orgueil. Et une grâce est une grâce. Et Dieu, à travers ce verset, m'a fait comprendre qu'il est inutile de chercher à mériter la grâce ou de s'en glorifier. Ceci dit, je crois qu'une relation de confiance avec les patients, ça nécessite des fondements. Et pour moi, dans mon boulot, les fondements, personnellement, c'est d'utiliser des techniques qui sont fondées. C'est des techniques basées sur des preuves scientifiques, sur des études. C'est de proposer au maximum une approche solide. Mon patient me fait confiance, je lui dois d'employer du solide. En fait, il faut comprendre que dans notre domaine, il y a vraiment un large champ de formation. Et franchement, il y a des trucs, c'est carrément perché. C'est vraiment, moi, ça ne me parlait pas du tout. Il y a des techniques douteuses. Et donc, j'ai fait le choix d'utiliser une approche dans mon boulot qui s'appelle l'EBP. EBP, ça veut dire Evidence-Based Practice. Peut-être que vous pouvez traduire, non, c'est pas vrai, les anglo-saxons. Ça veut dire une pratique fondée sur les preuves. Alors, qu'est-ce que vous vous demandez, quel est le rapport entre ce truc d'EBP, de pratique fondée sur les preuves, et ma foi en Christ? Eh bien, c'est très simple. C'est que de même que je fonde ma pratique professionnelle sur des choses solides, des techniques solides, eh bien, de même, ma vie, je la fonde sur le fondement le plus solide qui soit, la personne de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus, c'est du solide? Alors, déjà techniquement, parce que Jésus, sa personne est historique. Là, on est en 2022, après Jésus-Christ. Ensuite, son histoire, elle est rapportée dans des sources extra-bibliques aussi. Et enfin, parce que ce Jésus, il n'est pas apparu de nulle part. Toute la Bible est centrée sur lui. Il a été annoncé. Et même l'Apocalypse, c'est centré sur Jésus. La Bible, c'est quoi? C'est 66 livres. 40 auteurs sur une période de 3000 ans, et une personne qui est présente tout au long de l'écriture, de la Genèse à l'Apocalypse, donc notre Seigneur Jésus. En fait, on peut dire qu'il existe une vraie bibliographie de Dieu. Et dans cette bibliographie, on a d'ailleurs 4 évangiles, qui sont 4 témoignages de la vie de Jésus. Au passage, je vous recommande un livre qui s'appelle « Jésus l'enquête ». Je pense que pas mal l'ont lu, mais si vous ne l'avez pas lu, il est excellent. En fait, dans ce bouquin, c'est un journaliste qui se met en quête d'enquêter sur Dieu, mais sur Jésus, sur les évangiles, et en utilisant des techniques d'investigation de journalistes qui sont assez rigoureuses. Et sans suspense, à la fin, il croit. Mais on ne peut pas parler de Jésus sans la croix. La croix, c'est là que Dieu a tant aimé le monde. La croix, c'est quoi? C'est l'acte suprême d'amour de Dieu. Tout à l'heure, on l'a chanté. Et David l'a rappelé, c'est l'acte suprême d'amour de Dieu. C'est là que Jésus-Christ, son Fils, il a lui-même porté notre iniquité, nos injustices, notre péché, et les a crucifiés par sa mort. La croix, c'est la réconciliation possible avec Dieu. C'est la meilleure nouvelle pour l'humanité. Parce que Jésus, après sa mort, il est ressuscité. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors, il n'est pas ressuscité auprès de 2-3 personnes. Non, il y a eu des centaines de témoins oculaires. Et c'est rapporté dans ce bouquin-là. Jésus l'enquête, justement. Alors, Jésus, en plus d'être du solide, il est unique, spécial. Parce que qui d'autre que lui aurait donné sa vie pour moi, pour nous? Alors, on va revenir 2 minutes sur ce machin truc de BP dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que dans une pratique sérieuse, dans des techniques fondées, dans une pratique fondée sur des preuves scientifiques, il n'y a pas que la bibliographie, il y a aussi un truc important, c'est l'expérience. L'expérience du praticien. Alors, pour continuer, on va faire un peu de pratique. On va s'intéresser à quelque chose que l'on fait tous les jours, quelque chose de vital, qui s'apprend dans la vie et qu'on fait tous les jours, qui est essentiel. Vous avez deviné? Non, c'est pas jouer à la pétanque. C'est pas un jeu vidéo. Non, c'est de marcher, je l'ai entendu. Bravo. Et ouais, quand on étudie la marche, la biomécanique de la marche, ben, on apprend que la marche, c'est une succession de déséquilibres. En fait, on se met en déséquilibre et on fait un pas après l'autre pour suivre notre centre de gravité. C'est-à-dire qu'on doit décentrer nos appuis aux frontières, pardon, on doit décentrer notre centre de gravité aux frontières de nos appuis. Pour faire un pas, je dois me décentrer de moi-même. Moi, en 1991, j'avais 8 ans quand j'ai fait un pas comme ça, ce premier pas vers Dieu. J'ai avancé vers lui et j'ai fait l'expérience de son amour. Je définirai ce moment comme ma conversion. Plus tard, à 29 ans, j'ai demandé le baptême comme un pas supplémentaire vers lui. Je dirais que c'était un pas de confiance, un lâcher-prise aussi. Et vous savez, de même que moi, un patient au cabinet, je ne peux pas le mobiliser s'il a le bras comme ça. D'accord, je m'occupe beaucoup des épaules. Si le patient il y arrive, il est comme ça, je ne peux rien faire. Même ça va être pire parce que ça va lui faire encore plus mal. Et nous, moi, dans ma vie, et à travers mon baptême, j'ai vécu ça. Si je ne lâche pas prise, ben Dieu ne peut pas agir dans ma vie. Ce matin, il y a eu une parole sur le bateau et le moteur, la voile, et c'est ça. Quand on est en mode voile, eh ben, on ne choisit plus la direction. Par contre, c'est Dieu qui est aux commandes. Et perso, vous avez compris que j'ai mis du temps à lâcher prise. Entre mes 8 ans de ma conversion et mes 29 ans de mon baptême, ça fait 21 ans. Donc je peux vous dire que je me place dans la catégorie des patients bien pénibles. Difficile à bouger. Voilà. Aujourd'hui, je me laisse plus volontiers aller entre ses mains. Je me relâche plus facilement. Je découvre chaque jour qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Je peux voir que chaque jour dans mon boulot, il prépare des œuvres nouvelles, comme des occasions, des situations préparées d'avance. Petit aparté, kinésithérapie, ça veut dire soigner par le mouvement. Ça veut dire que, voilà, quotidiennement, moi je vis qu'il y a un Dieu qui me bouge, qui m'invite dans un mouvement, dans des œuvres pour lui. Et concrètement, je me tiens, j'essaie de me tenir disponible pour partager et pour prier. Parfois, c'est mon patient qui me demande de prier. Voilà, c'est souvent des personnes que je connais depuis longtemps, avec qui j'ai un niveau de relation personnelle au-delà de la relation de soins. Et parfois, je propose la prière tout de suite, quand je perçois que c'est là que Dieu me conduit. Il y a vraiment la souffrance qui se voit, la souffrance physique, et la souffrance qui ne se voit pas. Et de plus en plus, j'essaie d'être très attentif, avec le regard de l'esprit, on va dire, sur la souffrance qui ne se voit pas. Et il y a des choses, il y a des œuvres. Un petit témoignage pour terminer. Un jour, je reçois un message de la femme d'un patient. C'est un couple que je connaissais depuis pas mal de temps. Désespérée, elle m'explique que son mari est en urgence absolue et qu'en gros, les médecins lui ont fait comprendre qu'il fallait se préparer au pire. Voilà. Il lui avait dit on annule le centre de rééducation parce que là, vous comprenez, voilà, c'est grave. Cette patiente sceptique, non-croyante, elle m'a demandé de prier. Mais elle m'a demandé de prier sur ce ton-là. Prier, prier, prier. C'était vraiment une supplication. C'était vraiment une femme qui était désespérée, dans le désespoir. Alors bien sûr, c'est ce que j'ai fait. Et ce couple avec d'autres amis chrétiens qui ont prié aussi. Et non seulement cet homme, il a survécu à une dissection de l'aorte, mais en plus, il s'est réveillé sans séquelles. Et il s'est réveillé rapidement, quelques heures après l'opération. Et en plus, ce n'était pas la première fois, un mois avant, pareil, de manière un peu surnaturelle, il a survécu à une situation très critique. Moi, je sais que Dieu est intervenu. Je sais qu'il a répondu à nos prières. Je sais qu'il a agi. Pourtant, le cœur de l'homme est ce qu'il est. Parfois, il est dur comme la roche. Parfois, il est froid comme la nuit. Et malheureusement, cette personne miraculée, deux fois, elle ne s'est pas pour autant tournée vers Christ. Ça m'a peiné, c'est clair. Mais après sa confession de non-foi, je me suis dit que décidément, on ne pouvait pas faire du 100%. Voilà, je plaisante, mais c'est vrai. Notre job, c'est de prier, de partager. Et après, c'est plus entre nos mains. Pour conclure, j'ai envie de rappeler ce passage qu'on a vraiment à cœur avec ma femme. C'est dans 1 Corinthiens 13. Je ne vais pas le lire, mais 1 Corinthiens 13, c'est « Si je n'ai pas l'amour, je peux avoir tous les talents de la terre, tous les dons, ça ne me servira à rien. » Et cet amour, il vient pas de nous, il vient de lui, par grâce, par sa vie manifestée en nous. J'aurais aimé vous partager d'autres expériences, vous en dire un peu plus, mais on a des contraintes de temps. Et voilà, je me tiendrai à votre disposition à la sortie du culte si vous avez d'autres questions. Et sinon, ça sera pour une autre fois, à une autre étape de mon itinéraire de vie. Merci de votre attention.
Merci Vincent. J'ai cru que tu te tenais à la disposition si on avait mal au dos ou les choses comme ça à la sortie. Tu risques d'avoir un petit peu de monde. Sinon, il y a certains pasteurs qui utilisent aussi la prière. Ça marche aussi pas mal. Merci beaucoup Vincent, c'était super. Toi, tu portes le fardeau de j'ai mal là. Moi, en soirée, c'est à quel taux à la Banque Populaire ? Déjà, on peut faire un crédit. Donc, on a tous un peu nos fardeaux, c'est comme ça. Allez, sans plus tarder, on va accueillir notre second invité, Annick. Allez là-bas, on va l'applaudir. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait comme métier, comment je pouvais la présenter. Alors elle m'a dit, je suis éduc spécialisé. Et là, elle a ses yeux qui ont commencé à briller. Et elle a commencé à m'expliquer son métier. J'ai dit, écoute, je vais te laisser faire. Tu vas y aller parce que ça sera certainement mieux que moi.
Bonjour. Non, je vais essayer de faire court sur mon métier parce que si vous commencez à ouvrir des grands yeux, je vais voir que vous êtes intéressé. Et comme j'aime mon métier, je ne vais plus m'arrêter. Donc, on m'a donné du temps. Je m'appelle Annick, j'ai un grand garçon, je vais le dire, hein, c'est le plus beau, et c'est mon trésor, voilà. J'ai été élevée dans une famille chrétienne, mes parents étaient missionnaires en Afrique, et je suis née en Afrique comme tous mes frères et sœurs, on était au Tchad et au Centrafrique, élevée en brousse, on vivait à l'africaine. Et les missionnaires de l'époque, les moyens, ils n'arrivaient pas comme ça. En fait, mon père, je peux prendre un truc pour m'asseoir parce que je tremble un peu. J'ai pas l'habitude. Hein. Enfin, si, je fais des interventions dans les écoles d'éducateurs, il y en a 200, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil que vous. Donc, mes parents étaient missionnaires en Afrique, et c'est vrai qu'à l'époque, mes parents me disaient, en gros, c'est plutôt les Africains qui nous aidaient parce que pour se nourrir et pour se loger, parce que les moyens n'arrivaient pas comme ça. Donc c'était un vrai échange. Et je crois que c'est là-bas que j'ai appris beaucoup de choses. On a appris à partager, on a appris à accepter les gens et à aimer notre prochain parce qu'ils ont aussi ouvert un orphelinat, que maman avait assez de lait pour deux, donc moi j'ai eu une sœur de lait, en même temps que j'avais moi d'un côté une sœur de lait de l'autre. Donc depuis ma sœur aînée avait un frère de lait, on a tous appris à partager très tôt, et je crois que c'est pas pour rien du coup que je me retrouve dans un métier comme ça, d'éducateur, un peu d'aider, je crois qu'on se soigne un peu quand on est éducateur en fait, hein. On soigne un truc. Quand on est rentré, on a habité dans une communauté pendant 4 ans, où mes parents avaient fait leur formation, hein, la porte ouverte. Il y en a qui connaissent dans la salle. Et ils étaient responsables. Et ensuite, on est parti s'installer en Ardèche. Voilà. Et là, ça a continué parce que les voisins appellent encore notre maison la maison du monde, parce qu'on a toujours ramené les... Oh maman, tu sais, celui-là, là, il mange pas bien chez lui. Oh bah lui, ses parents sont disputés, est-ce qu'il peut venir ? Oh bah lui, je l'ai trouvé sur la route, c'est un autostoppeur. En fait, la maison, elle était ouverte, il y avait toujours plein de gens. On mettait même des tentes dans le jardin parce que des fois, on n'avait plus de place dans la maison. Donc il y avait des gens qui dormaient une nuit dans le jardin et qui repartaient. Et les voisins n'ont jamais compris pourquoi. Hein. Ils nous ont dit, mais vous ne les connaissez pas et tout. Bah oui, mais on n'a jamais eu de problème. Jamais. Voilà. Donc je crois que vraiment... Ça a guidé mon choix de métier, cette histoire-là, depuis ma plus tendre enfance. Et merci Vincent, parce que le seul verset que j'avais quand on m'a demandé, c'est « Si je n'ai pas de l'amour, je suis comme un son de cloche qui résonne ». Je pense qu'on peut aimer les gens On peut être bienveillant, mais il faut vraiment de l'amour aussi. Donc je vais juste vous présenter, alors je travaille avec des enfants qui sont, et adolescents qui sont extraordinaires pour moi, vraiment. Je travaille avec des enfants polyhandicapés. Et donc, on a toujours tendance à les considérer que comme une personne lourdement en tête, atteinte de plusieurs pathologies, sans désir ni possibilité de compréhension et de son environnement. Bien sûr, les gens, ça rajoute. Et quand les personnes arrivent au boulot, souvent, il y a aussi une peur vis-à-vis de l'handicap. La méconnaissance, il fait beaucoup. Et comme ces enfants n'ont pas accès la plupart à la communication, eh ben, on ne communique pas. Enfin, y a des personnes qui disent, bon, de toute façon, on va faire que du soin, quoi. Ils ne vont pas communiquer. Mais malgré les souffrances qu'ils ont, ces enfants, ils vont devenir adultes, adolescents, adultes. Ils ont des besoins, ils ont des désirs, ils ont des émotions, ils ont envie de vivre. Ils ont envie de découvrir de nouvelles sensations, d'apprendre et de communiquer. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans un corps qu'ils n'ont pas toutes ces envies-là. Et moi, je travaille depuis 10 ans sur le pôle petite enfance. Je suis en coordination sur 2 équipes. Et on accueille les petits, ils ont 4 ans. La première fois que les parents nous les laissent, donc c'est un peu compliqué aussi pour les familles. Et je travaille avec des soignants qui ne sont pas forcément formés à ça. Et je leur dis tout le temps, la première des choses, vous partez du fait que ces enfants ont tous des compétences. Notre boulot, c'est de faire sortir, c'est de faire émerger les compétences. Et on va partir de là ensemble, en équipe, hein, avec les kinés, les rééducateurs, tout ça. Mais ils ont des compétences. Même celui-là qui ne vous dit rien, qui vous regarde comme ça, qui ne bouge pas de la journée, il a des compétences, il a des choses dans la tête. Et juste pour un exemple, j'avais une petite fille, quand elle est arrivée, elle ne bougeait pas, elle me regardait les yeux toujours comme ça par-dessous. Et on essaye de travailler la notion de choix. Et donc un jour, je fais choisir son dessert. Elle ne bougeait pas, hein, vraiment. Et je me suis dit, pourquoi elle ne peut pas choisir son dessert, en fait, entre un yaourt, une compote. Je lui mets sur la tablette devant et je lui fais choisir. Elle n'a pas bougé pendant 5 minutes. Et d'un coup, je vois, elle bouge sa main et avec son petit doigt, elle vient me toucher ma main devant le yaourt et pas devant la compote. Donc, elle voulait le yaourt. Son seul moyen, c'est avec son petit doigt. J'ai dit, OK, tu veux le yaourt, tu vas avoir le yaourt. Mais voilà, ça, ça fait partie de mon travail au quotidien. Je ne vais pas raconter tout le quotidien des éducs, il y en a pas mal dans la salle. Et voilà. Et donc, j'ai fait aussi une petite partie sur ma foi au travail. Donc quand je suis arrivée au travail, il y a des années de ça, j'ai aussi travaillé en toxicomanie au SAMU social, mais j'ai passé le plus clair ma vie professionnelle dans cet établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés. Et au début, je n'étais vraiment pas trop engagée. Alors moi, j'ai toujours eu des engagements associatifs, la première à soutenir les associations, à aller à la manif, bien sûr, hein, parce qu'on a toujours des choses à revendiquer. J'ai beaucoup d'engagements associatifs. Mais engagée dans la foi, arrivée au travail, pas trop. Même si j'avais été élevée dans une famille chrétienne et qu'on me disait, la foi, elle est personnelle, tu dois... Enfin, c'est un engagement personnel. Moi, je disais, mes parents, mais pourquoi vous voulez que... Enfin, franchement, je suis gentille, j'aime les gens. Enfin, il y en a que j'aime pas, mais c'est pas grave, je leur dis pas. J'aime les gens, je vole pas, je mens pas. Enfin, du tout petit, ça, ça compte pas. Et donc, moi, je suis gentil. Enfin, franchement, moi, je fais tout ce que la Bible a dit. Je suis gentil, je ne vois pas pourquoi je vais... Voilà. Donc, je savais que le Seigneur était présent. Quand j'avais besoin de lui, je l'appelais ou j'allais à l'église. Puis après, voilà, il avait résolu mon problème. Donc, pendant 6 mois, c'était tranquille. Je pouvais faire ce que je voulais. Puis après, je pouvais retourner à l'église, quoi. Donc, je n'étais pas forcément très engagée. Pour le reste, oui, mais pas pour ça. Et donc, pas du tout envie de témoigner. Et puis, un jour... j'étais déjà là. Je choisissais mes églises. En fait, je ne voulais pas, parce que vous savez, dans les églises, on accueille, on vous dit comment vous allez, vous pouvez revenir la semaine prochaine, machin, il y aura ça, ça, ça. Ça, je savais très bien. Donc, je venais une fois là, une fois là-bas, une fois là-bas, histoire qu'on ne me repère pas trop. Une fois tous les 6 mois, ça allait. Et je me suis revenue ici, Et tout le long de la route, en montant, c'était bizarre dans ma tête. C'était, j'ai l'impression d'être le fils prodigue qui revient à la maison. C'était vraiment ça. Et je m'assois, je me rappelle, c'était de ce côté. Je m'assois. Et c'était Jean-Louis Pujol qui a parlé sur le fils prodigue. J'ai pleuré tout le long. Tout le long. Évidemment, il a fait un appel. Hein. Donc là, c'était vraiment un réengagement pour moi, je veux dire. Vraiment ça. Et donc le verset, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un son de cloche qui résonne, ça prend du sens à ce moment-là. Parce qu'on se dit qu'on aime les gens, mais non. Il y a tout autre chose derrière, en fait. D'avoir de l'amour pour les gens, ce n'est pas seulement ceux qu'on aime, qu'on apprécie, c'est aussi ceux qu'on n'apprécie pas, c'est accompagner tout ça. Donc ça prend plus de sens. Ça a changé ma manière d'être et d'interagir avec mes collègues. Bon, ils l'ont remarqué au fil du temps. Maintenant, on m'appelle Mère Teresa la plupart du temps, mais bon, c'est pas grave. La première fois que j'ai osé, ça, ça a été compliqué, c'était mon directeur à l'époque. J'étais convoquée dans le bureau, je ne sais plus pourquoi. Et je vois une photo de ses enfants et je lui dis, au fait, ils vont bien vos enfants, tout ça. Il me dit, ma fille en Angleterre, elle ne va pas bien, elle a un cancer stade 3 et je ne sais plus quoi faire. Et dans mon cœur, il y avait un truc qui disait, dis-lui. C'est mon directeur, je n'ai pas le droit de faire du prosélytisme, je ne dis rien du tout. Et il me disait, je ne sais vraiment pas quoi faire, trouver des spécialistes et tout. Et là, dis-lui. Donc je lui dis, j'étais à l'église de Sommières à l'époque, je lui dis, vous savez, je fais partie d'une église. Est-ce que vous voulez qu'on prie pour votre fille ? Il dit, ah ben oui. Voilà. D'accord. J'ai dit, ok, je vais leur en parler, on va prier pour votre fille. Et puis comme ça, il n'a plus rien dit. Et peut-être 7-8 mois après, il vient me voir, il me fait, Annick ? Je lui dis, oui. Il me dit, à quel ordre je fais le chèque ? Je lui fais, quel chèque ? Il dit, ma fille est guérie. À quel ordre je fais le chèque ? Je lui dis, mais vraiment, je lui ai dit, écoutez, je pense que vous pouvez dire merci Seigneur, parce que je ne pense pas qu'en haut, là-bas, il y a une banque. Donc, en fait, non, je ne vais pas prendre de chèque, mais voilà. Je l'avais dit aux anciens à l'église à l'époque, ils disaient, on aurait pu mettre quand même. Non, j'ai. Non. Et après, est arrivé, là, c'est pas mal de témoignages, en fait. Après, est arrivée une collègue à moi, qui est venu ici, que j'ai invité à un nouvel an. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce nouvel an où c'était tout le monde déguisé en super-héros. Voilà. Donc j'ai invité cette collègue qui est venue avec son compagnon à l'époque. Flo l'a connue. Et elle est venue ici parce qu'elle aimait se déguiser, en fait. Donc elle est venue. Elle a super apprécié et aimé. Tabitha, c'est Julie. Et quand on est rentré au boulot, les gens disent « Ah, oh, qu'est-ce que t'as fait un nouvel an ?» et tout, et tout. Elle dit « Vous n'allez pas me croire, mais j'ai été à l'église d'Annick. » Alors tout le monde... Ah bon ? Elle dit « Ouais, mais ils sont fous là-bas. » Elle dit « Vous avez déjà vu des chrétiens qui mangent, qui dansent et qui font la fête dans leur salle de culte ? Là-bas, ils font ça. » Et elle a surtout dit, elle a dit « J'ai jamais vu ça. » Je n'ai jamais senti un tel amour entre les gens. Et elle dit, c'est les jeunes qui ont préparé cette soirée. Elle dit, mais en plus, ils s'aimaient. Hein. On voyait qu'ils étaient contents d'être ensemble et tout ça. Mais vraiment, ça a été un super témoignage. Et Julie, elle a aussi parlé avec Flo, parce que ma copine Julie, elle avait des problèmes pour avoir un enfant. Elle a fait plusieurs FIV. Elle a eu un gros parcours. Et elle savait que je priais pour elle. Parce que je lui avais dit, je vais prier pour toi, Florence priait pour elle. Elle aimait beaucoup l'Asie, elle faisait des voyages en Asie, elle revenait avec les bracelets rouges. Je lui dis, c'est quoi ça ? Elle me dit, ouais, c'est un prêtre, il a béni. Je lui dis, Julie, bon, je ne peux pas prier pour toi, tu as un truc comme ça autour du bras, tout ça. Ça cassait, elle n'était toujours pas enceinte. Hein. Et un jour, elle est arrivée en pleurant en service, et elle m'a dit, Annick, je suis enceinte. Et c'était hors système médical, c'était naturel. Et franchement, c'était trop beau, on pleurait toutes les deux. Elle ne m'a pas dit, c'est grâce à toi, hein, mais bon, voilà. Et le jour du baptême de sa fille, elle, il y a un an, elle a remercié tout le monde de l'avoir soutenue dans ce parcours-là. Et elle dit, j'ai même ma collègue de boulot, ça a l'air de marcher, elle a prié pour moi. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout et je trouvais ça beau parce que je me suis dit, jamais elle m'en parle. Et là, elle le dit devant une assemblée, des familles de communistes en plus. Donc voilà. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée pour témoigner au travail. Un jour, ma chef me dit, est-ce que vous connaissez des jeunes qui voudraient travailler le week-end ? On a besoin de soutien. J'ai dit, ouais, il y en a deux ou trois qui m'en ont dit. Les premiers jeunes qui sont venus travailler le week-end à Montoury, ça a été Alexis, Jérémy et Benjamin Nadal. Et ils ont fait les week-ends. Et au bout de quelques temps, ma chef m'a dit, vous les connaissez d'où ? Alors au départ, je vous ai dit, c'est les jeunes moniteurs de la colonie de mon fils et tout ça. Et elle m'a dit, mais franchement, Annick, ils sont super. Ce sont des gens, ils n'ont pas peur. Ils sont bienveillants avec les enfants. Ils sont respectueux. Ils ont envie d'être là. Et ils montrent qu'ils ont de l'amour. Elle me dit, mais vraiment, vous en avez d'autres comme ça ? J'ai dit, oui, petite réserve. Et depuis ce temps-là, il y a à peu près une vingtaine de personnes de l'église qui sont venues travailler à Montoury dans des remplacements ou en CDI, comme Tabitha. On a eu Béa aussi, et plein de jeunes qui sont venus. Et chaque fois, le retour des équipes, ils savent maintenant que c'est l'église. Hein. Chaque fois, ils me disent, mais Annick, ils sont vraiment bien, ces jeunes. Mais vraiment. Et pour moi, c'est un vrai témoignage, et ça m'aide aussi de pouvoir parler, parce qu'ils sont un témoignage. Alors merci, parce que c'est toute l'église du CMLK qui est témoin de mon travail, en fait. Et donc, ça, pour moi, c'est un gros encouragement. Je vous parlais d'une autre collègue qui s'appelle Rachel, à qui son mari a eu un grave accident l'été dernier. J'avais demandé sur le groupe guérison, compris pour elle, pour eux, pour lui, en tout cas. Et il a été dans le coma à Nîmes. Il avait un trauma frontal, enfin derrière, devant, les neuro disait que ça allait être super grave et on ne savait pas comment il allait récupérer tout ça. Bon, le jour où elle a appris, elle était au travail. Et elle est montée sur le parking pour qu'on vienne la chercher en voiture. Et je lui dis, je ne vais pas te laisser toute seule, je viens avec toi. Et au bout de 5 minutes, elle pleurait quand même. J'ai osé, je lui dis, Rachel, est-ce que tu veux que je prie pour toi et pour ton mari, en tout cas, et pour ta famille ? Elle me dit, ah oui, Annick, tu as déjà prié et ça a marché. Alors je regarde, je fais bon. Et en fait, il y a 6 ans en arrière, son mari avait eu un cancer de la prostate et elle m'avait demandé de prier. Et elle ne m'a plus jamais rien dit. Et là, elle me dit, oui, tu as prié pour mon mari et ça a marché. Donc, je veux bien que tu pries. Alors, je lui dis, je vais prier. Après, je ne sais pas. Tu sais, le Seigneur, c'est lui qui décide. Hein. Mais oui, on va prier pour ton mari. Et son mari va très bien maintenant. Il peut me récupérer. Il a pu reprendre une partie du travail et conduire. Donc, il a extrêmement bien récupéré et vite récupéré. Voilà. Et dans le travail, on a, j'arrive à la fin, on a parfois des choses difficiles. On encadre des enfants qui ont des maladies qui sont évolutives et dégénératives. On sait qu'on peut les perdre. Effectivement, des enfants décèdent, ça reste toujours très compliqué. Et pour nous, pour la famille encore plus, mais nous aussi, puisqu'on les a au quotidien et on s'attache à eux quand même, donc ça reste compliqué. Et donc l'année dernière, un petit dont je m'occupais, j'étais référente, est décédé pendant les vacances de Pâques. Et on était fermés. Et la maman m'a appelé de suite pour me dire, il est décédé et voilà, je voudrais vous voir, Annick. Alors oui, j'y suis allée et oui, je suis avec la maman. Et je l'ai accompagnée dans ses démarches, aussi à la maison funéraire, au cimetière, tout ça. Et c'est aussi montrer de la bienveillance à ses familles. Et aussi, j'ai pu expliquer à l'équipe, l'équipe comprend que je crois aussi à la résurrection. Mais je peux aussi témoigner, et j'ai pu témoigner à cette maman qui est complètement athée, et qui sait, parce que je la vois encore, elle m'appelle régulièrement, j'ai besoin de vous voir, est-ce qu'on peut parler ? Donc je vais chez elle, on boit un café, on va en ville et tout. Elle a besoin de parler, et j'ai témoigné à cette maman qui est complètement athée, mais qui est en recherche. Et je l'ai invitée au parcours Alpha. Elle a été très touchée du repas, le premier repas. Bon, je crois qu'elle n'est pas prête, mais elle n'est pas fermée. Donc c'est une maman qui est en recherche et voilà, moi je continue à prier pour elle comme pour tous les parents et qui ont perdu des enfants ou ce qu'on a, hein, parce qu'on prie pour les enfants. Parfois ça m'arrive d'aller chanter des chansons d'ici pour endormir les enfants quand ils sont très énervés, ceux qui ont des troubles de comportement, ils ont du mal. Je vais dans la chambre, je pose la main sur eux, puis je fredonne un chant d'ici. Ça marche. Ils dorment. Alors j'avais envie de dire que comme l'argile aux mains du potier, je me laisse faire au fur et à mesure de ma croissance spirituelle, en fait. Mais je reste humain. Je suis quelqu'un d'humain. Et parfois, ben, ça reprend le dessus. Je suis pas, voilà, mon caractère revient. J'ai un peu un caractère d'âne sauvage. Et si vous me dites, il faut pas faire ça, c'est sûr que je vais le faire. Hein, je vous le dis tout de suite. Donc j'ai besoin un petit peu d'être cadré et d'être guidé. Mais bon, je reste humain et je sais que rien n'est parfait, que je suis pas parfaite et que j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais ça me fait plaisir. Moi, franchement, quand ils m'appellent Mère Teresa, je suis contente. Hein. Donc en fait. C'est mettre la parole de Dieu en pratique dans nos vies et dans notre travail. Ça nous aide à avoir des relations bienveillantes avec les gens. Donc, mieux les écouter. J'ai une collègue qui m'a dit, mais c'est vrai, elle a raison. On a une bouche, deux yeux, deux oreilles. Et en général, quand quelqu'un nous parle, on ne prend pas le temps de l'écouter. En fait, on répond tout de suite. Mais ce n'est pas pour rien qu'on a deux oreilles et deux yeux, c'est pour regarder, écouter, et puis après, on peut parler. Sachons écouter les gens. Donc mieux les écouter, savoir mieux communiquer aussi avec eux, les valoriser. Ce n'est pas facile de valoriser les autres en leur disant « t'as fait du bon travail aujourd'hui, enfin, je suis content, c'est super, l'idée que t'as eue, t'as mis en place une activité, j'y avais jamais pensé, ça c'est génial. » C'est vraiment super. Leur faire confiance, prier pour eux et prier pour ceux qui ne sont pas OK avec vous, hein, parce que j'entends... Annick, elle est dans une secte, tout ça. Mais prier pour ces gens, même quand c'est compliqué, même quand les relations, c'est difficile, parce que travailler en équipe, c'est compliqué. C'est très compliqué, les relations humaines, surtout dans des... On va me dire que c'est pas bien, mais quand il y a 90% de filles dans une entreprise, c'est pas facile. Donc, il faut vraiment prier. Non, mais c'est vrai, hein, c'est... Les garçons, ça apaise un peu, des fois. Donc moi, je continue. Je me dis, je continue à me laisser guider, façonner. Et c'est le Seigneur qui m'aide, parce que je pense que maintenant, j'ai pris l'habitude de remettre ma journée de travail avant d'aller au boulot. Parce que si on vit des moments hyper compliqués. Et voilà. Donc... Et quand on aura des kermesses au boulot, je vous invite tous, vous avez le droit de tous venir, vous venez voir comme mes petits, ils sont extraordinaires et en plus ils sont beaux. Voilà.
Merci beaucoup Annick. C'est vrai qu'on est bien sur cette chaise là finalement, moi aussi je vais rester. Marie, l'équipe de musique. Alors, ils se sont pas consultés, mais ils ont tous les deux reçu... Il prend la chaise, pardon. 1 Corinthiens 13, alors je crois que pour finir ce temps, il faut quand même qu'on le lise. L'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance... Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Amen. On va prendre un dernier chant, puis j'aurai quelques annonces. Marie.
I'm J'étais brisée, vidée sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me ton trésor dans des vases d'argile. On prend mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a
Allez, quelques annonces pour terminer ce bon moment. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter nos deux invités. En tout cas, moi, ça a été mon cas.